tout est à sauce. C'est Michel pour La parole est à vous, avec bien sûr Jean, puisque c'est le magazine Santé.
Bon, bonjour à tous, bonsoir à tous.
Et puis bien sûr avec Lou, des techniques, voilà.
Bonsoir Michel, bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Salut Lou.
Je vous rappelle que cette émission de La parole est à vous, magazine Santé, et pas notre paradémat, on va reparler
De
de l'annonce qui a
fertilité,
été
oui.
faite d'une lettre qui est envoyée à toutes les Françaises. Et ça concerne que les femmes, bien sûr, qui approchent la trentaine, c'est ça?
Oui, pour
C'est
toutes les
ça,
femmes
Jean?
de 29 ans, je crois, oui. C'est le président
Ah oui.
Macron qui va faire
Dès
une
qu'il
lettre aux
approche la
Françaises, une
trentaine,
lettre aux
pourquoi?
Françaises.
Pour mettre en garde que sur la fécondité?
Voilà, oui. C'est vrai qu'il y a un problème démographique en France. C'est-à-dire que normalement, la courbe des âges a la forme d'un sapin de Noël. Elle est très large en bas, il y a beaucoup d'enfants, et elle se rétrécit progressivement au cours de la vie pour avoir une pointe quasiment plus de gens qui ont 100 ans ou très peu, quoi, hein.
Pourquoi la trentaine alors?
Parce qu'à partir de 30 ans, on a une baisse franche de la fertilité.
Et c'est valable pour les femmes?
Oui, c'est valable
Bah,
pour les femmes et
même pour les hommes, non? Ah non.
un petit peu plus tard pour les hommes, après 35 ans. Et cette courbe de la population est actuellement, elle a une forme un petit peu ventrue et elle s'amincit tout en bas. Hein, il y a beaucoup moins de naissances. Puisqu'on est passé actuellement à 650 000 naissances en France, alors qu'on était à 800 000 naissances il y a 5 ou 6 ans, quoi. On a une population qui vieillit. On a l'âge moyen en France, c'est 43 ans de la population. L'âge médian, c'est 42,1 années. L'âge médian, ça veut dire qu'il y a autant de gens en dessous qu'au-dessus de 42 ans. Et ça va s'aggraver, ça va s'aggraver, hein. C'est-à-dire que l'espérance de vie est de 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. On a gagné 10 ans d'espérance de vie en 50 ans. Donc, on a une génération de une population.
Encore 7, encore quelques années de vie en plus pour les femmes alors.
Oui, 50 plus pour les femmes. Donc, beaucoup moins d'enfants. Alors, il faut se méfier aussi des politiques qui appellent. Des motivations des politiques qui appellent entre guillemets, à un réarmement démographique. Chaque fois qu'il y a eu des appels à des réarmements démographiques,
Pardon, on tousse ça encore.
c'était pour des raisons, je dirais, industrielles. Il faut des gens pour travailler. Une motivation tout à fait empathique vis-à-vis de la population. Deuxième motivation de nos gouvernants pour appeler un ressaut démographique, fête des enfants, c'était avant les guerres. Il y a eu énormément de battages médiatiques pour faire des enfants après la guerre de 1870, entre 1870
Ah
et
oui.
1914. C'est, bon, entre guillemets, de la chair à canon, hein. C'était un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu triste. Ce qu'il faut, effectivement, c'est bien que les femmes aient des enfants, mais les enfants quand elles veulent, quand elles peuvent et quand elles le souhaitent. Voilà, dans de bonnes conditions, hein.
Parlons voir du désir d'enfant. Alors, certaines féministes disent le désir d'enfant, c'est purement artificiel. Alors que quand même, on dit que les femmes, de toute façon, elles ont quand même majoritairement un désir d'enfant,
Oui,
de procréer.
ça fait partie un petit peu de la nature humaine, mais ça n'est pas obligatoire. Il y a des femmes et des couples qui ne souhaitent pas forcément avoir d'enfants. Et je pense qu'il faut respecter cette volonté. Et comme j'ai dit, c'est que les femmes qui souhaitent en avoir et qui désirent ardemment en avoir puissent le faire, à la fois sur le plan médical, mais aussi sur le plan social et économique, parce que c'est un problème. Mais faut pas culpabiliser les gens parce qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Voilà, c'est un droit, c'est une possibilité, c'est pas forcément
De toute
mono.
façon, la loi sur l'avortement n'a jamais changé les choses
Non, 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 non.
par rapport au
Oui.
désir d'enfant.
Il y a 234 000 IVG par an actuellement en France pour 650 000 naissances.
Donc, ça
Un tiers.
interfère très peu
Un tiers
sur
des
le.
grossesses, ou un quart des grossesses qui sont débutées aboutissent à une interruption volontaire de grossesse.
Mais c'est... Est-ce qu'on peut considérer que finalement, le fait d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui est attaché quand même à la psychologie féminine, tout ça c'est...
Ça fait partie de la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine. Nous vivons aussi pour... c'est une question philosophique. Hein. Nous mourrons, nous quittons ce monde un jour. Et laisser des enfants derrière soi, c'est laisser une petite trace, c'est laisser peut-être... Mais c'est très égoïste, hein, mais c'est que le monde
continue. Oui, mais le rôle principal, c'est quand même les femmes dans ce schéma-là.
Oui, c'est les femmes qui en ont la responsabilité.
C'est quand même les femmes qui décident quand même.
Qui portent les enfants.
Enfin, maintenant, avec la contraception, on peut dire quand même que c'est les femmes, elles seules, qui décident.
Je pense qu'idéalement, ça se décide quand même en couple. Mais c'est vrai que c'est les femmes qui en ont la responsabilité de porter les enfants pendant la grossesse, de les mettre au monde, d'accoucher, ce qui n'est pas rien.
Et de les élever, hein, souvent.
Souvent de les allaiter et de les nourrir. Et puis, il y a une inégalité dans la prise en charge des enfants ultérieurement. C'est les femmes qui s'occupe un petit peu de...
Est-ce que, au cours de ta carrière, est-ce que de gynécologue, est-ce que tu as observé des évolutions dans la sphère familiale, au rôle de la femme, le rôle des hommes? Est-ce que tu as vu des évolutions notables?
Un petit peu dans le discours, mais dans les faits, pas trop.
Pas trop.
Je pense que les hommes participent peu, culturellement, et je pense qu'il faudra plusieurs générations pour que ça change, si ça doit changer. Actuellement, le taux de fécondité des femmes en France est de 1,56 enfants par femme. Et on sait que pour renouveler les générations, il faudrait 2,1 enfants par femme.
Ben oui.
Hein, parce que bon, les hommes ne faisant pas d'enfants, les femmes doivent en faire pour renouveler simplement les parents. Il faudrait 2 enfants pour que la population se maintienne. Et pour la première fois en 2025, la population française, je dirais naturellement, hors immigration, a baissé d'à peu près 6 000 personnes. Il y a eu 6 000 décès de plus que les naissances.
Alors ça, c'est même un phénomène nouveau en France, parce que jusqu'à présent, les Français faisaient des...
Oui, les Français, et nous sommes pas...
De manière renouvelée, les générations.
Et nous sommes encore un des premiers, ou si ce n'est le premier, en matière de nombre d'enfants par femme dans les 27 pays de l'Union européenne. Et on est actuellement à 1,56 enfants par femme, mais ça baisse tous les ans. Hein, ça baisse tous les ans. On est parti d'un 80 il y a 3 ou 4 ans. Il y avait encore 800 000 naissances en 2018. Il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est une baisse importante. En Italie, ils sont à 1,2 enfants par femme.
Oui, l'Italie, ouais. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est l'Italie vraiment le mauvais élève de l'Europe.
Oui, alors la population française n'a pas baissé, je dirais, grâce à l'immigration. Mais l'immigration est à 0,13% de la population, elle n'a jamais été aussi basse depuis 80 ans. Et même des pouvoirs politiques qui sont franchement anti-immigration, comme en Italie, hein, Meloni est quand même une droite radicale, se sont convertis à une immigration massive pour avoir, comme on le disait tout à l'heure, de la main-d'œuvre bon marché, pour l'économie.
C'était Mussolini qui a dit que la maternité, c'était pour les femmes, donc, l'équivalent du service militaire.
Oui. Donc, les motivations politiques, comme j'ai dit...
C'est-à-dire que le fascisme en Italie avait considéré, de toute façon, que la vie familiale avait une grande importance, etc. Comme beaucoup de régimes d'extrême droite, d'ailleurs.
Ben, on se souvient du slogan « Travail, famille, patrie » de Pétain pendant la dernière guerre mondiale. Hein. C'est « Travail, famille,
avec
patrie ».
Avec ce que ça supposait aussi de lutte contre l'avortement, etc. L'époque nataliste en France a commencé après, bien sûr...
Après les guerres.
La guerre 39-45.
Hein, oui, oui. Avec une politique nataliste, la mise en place d'allocations familiales.
C'est-à-dire que les gouvernements ont fait des gros efforts pour, justement, soutenir la famille et la maternité.
Oui, il y a trois allocations importantes qui ont été, c'est les allocations familiales.
Eh oui, il y avait des allocations familiales.
Et il y avait des allocations en cours de grossesse à chaque examen obligatoire, qui était le troisième, sixième.
Et ça, c'est le cas actuellement, en fait.
Je crois que c'est tombé un petit peu en désuétude, ça.
Hein?
Je crois que c'est tombé un petit peu en désuétude. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Mais c'était incitatif. Il y avait des allocations familiales en fonction du nombre d'enfants. Des allocations logement qui étaient importantes. Et puis,
qui existent toujours, mais qui sont minorées par rapport...
Et puis, quelque chose qui est propre aussi à la France, c'est le quotient familial. Le quotient familial, c'est ce qui permet de répartir les impôts en fonction du nombre de personnes dans la famille, et en particulier du nombre d'enfants.
Oui. Hein.
C'est vrai qu'il y a des problèmes économiques. Pourquoi les gens ne veulent plus d'enfants? Parce qu'il y a un manque d'envie. Il y a une pression sociale qui a souvent un effet repoussoir. Hein. Combien de femmes sont l'objet de critiques ou de contraintes en leur disant « mais tu fais pas d'enfant, quand est-ce que tu nous fais un gamin ? Faut pas tarder, etc. » Il y a une pression écologique, c'est-à-dire que beaucoup de gens, vu les modifications climatiques, l'avenir du monde, renoncent à faire des enfants pour ne pas avoir des enfants qui vivent des conditions peut-être...
Et la carrière professionnelle aussi.
Voilà, des raisons professionnelles. Voilà. Les femmes font des études, rentrent dans la vie professionnelle, retardent leur grossesse, et on sait que la fertilité baisse à partir de 30 ans. Et il y a... C'est une possibilité qui existe en France de congeler des ovules ou de congeler.
C'est existe en France aussi.
Ou congeler du tissu ovarien même. Et pareil pour les hommes de congeler du sperme. Alors, les femmes peuvent l'utiliser, leurs ovules, jusqu'à l'âge de 45 ans. Au-delà, ça, c'est plus autorisé. Et les hommes, leurs spermatozoïdes, peuvent les utiliser jusqu'à 65 ans. Les femmes ont aussi un désir d'indépendance. Hein, qui n'est forcément pas forcément de s'accrocher, de se lier un petit peu les poignets dans une vie familiale.
Mais qu'en est-il justement de la fertilité des hommes et des femmes? Parce que la fertilité des hommes a baissé notablement.
Oui. En 20 ans, le nombre de spermatozoïdes a baissé de 50%. C'est énorme.
Ah, mais on veut se creuser une pause musicale, alors je ne sais pas, que c'est le choix de qui?
Donc, on fait une petite pause musicale.
On va parler de maternité dans cette pause musicale.
Pas cette fois. Michel, tu as choisi Le Déserteur de Boris Vian. Donc, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Donc,
eh bien, c'est quand même dans ces bruits de bottes à la surface, partout à la surface de notre planète, ben, il est bon quand même de passer quand même cette chanson. Il fallait en reparler aujourd'hui, là où la paix est menacée partout à travers le monde. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est toujours,
oui.
C'est toujours les civils la plupart du temps, hein, les familles qui subissent les aléas de la guerre.
Donc on parlait des problèmes de fertilité. Hein, et la fertilité baisse avec l'âge, autant chez l'homme que chez la femme.
Ah oui, alors qu'en est-il de la fertilité alors ?
Entre 25 et 30 ans, chez la femme, il y a 25% de grossesse par cycle possible. À 35 ans, c'est plus que la moitié, 12%. Et au-dessus de 40 ans, plus que 6% de grossesse par cycle. Donc, on a une baisse importante de la fertilité. La femme a un stock d'ovocytes, d'ovules, qui est constitué à la naissance. C'est fini, elle ne fera plus d'autres ovules. Et au-delà de 35 ans, il ne lui reste plus que 10% de ses ovules. Donc, la nature a fait comme ça les ovaires féminins, quoi. Donc après 40 ans, les chances de grossesse ou les risques de grossesse sont très faibles. À 30 ans, il y a 30% de grossesse dans l'année qui vient. Une femme qui a 30 ans a 30% à peu près, entre 30 et 50% de chances d'avoir une grossesse dans l'année qui vient. À 40 ans, c'est plus que 20%. Et à 42 ans, il y a très très peu de grossesse. Au-delà de 42 ans, c'est 2,9% des naissances, 19 000 naissances en France surviennent chez des femmes de plus de 42 ans. Donc ça devient relativement... Alors, chez l'homme, il y a une baisse de la qualité du sperme à partir de 40 ans, on va dire. Mais déjà, à 35 ans, ça commence, mais à 40 ans, ça s'accentue.
Je suis un cas désespéré depuis longtemps.
Voilà. après 50 ans, la qualité se détériore de manière très importante. Avec ce qu'on ne savait pas il y a encore quelques années, c'est une augmentation du nombre de fausses couches avec l'âge du père. Les femmes font plus de fausses couches si le procréateur est un homme âgé. Parce qu'il y a plus d'anomalies génétiques. Il y a ce qu'on appelle une fragmentation de l'ADN du spermatozoïde qui donne lieu à des fécondations, mais des enfants non viables et des fausses couches. Le taux de fausses couches, inférieur à 10% à 22 ans, 20% à 35 ans, 40% à 40 ans et 70% après 45 ans. Donc, il y a beaucoup plus de grossesses qui sont démarrées que de grossesses qui évoluent. Et ce chiffre baisse de manière considérable avec l'âge. À la fois de la mère et du père. Ça, c'est... L'âge est quelque chose d'irrémédiable. Hein. Et l'âge moyen de la première grossesse, actuellement, c'est 31 ans. Donc, on est déjà dans une période...
Ah oui, comment déjà...
Déjà dans une période où la fertilité a déjà commencé à baisser. Donc, c'est vrai que médicalement, il faudrait pouvoir inciter les femmes qui souhaitent avoir des enfants à les avoir avant. Ce serait mieux, plus facile, un meilleur taux de fécondation et moins de fausses couches. Et des grossesses qui se passent mieux après. Parce qu'au-delà de 30 ans, on a beaucoup de pathologies liées à la grossesse, comme des diabètes liées à la grossesse, comme des hypertensions, des pré-éclampsies, des plus d'accouchements prématurés.
Les mauvais habitudes alimentaires, l'alcool, tabac joue.
L'alcool, le tabac joue énormément et le tabac joue aussi de manière chronique. Ça joue largement sur la fécondité, y compris sur les chances de grossesse par procréation médicalement assistée, par fécondation in vitro.
Il y a un problème de fécondité.
Il y a un problème de fécondité, oui. Oui. Le tabac diminue les fécondations, donne plus de fausses couches, parce que ça abîme les vaisseaux entre l'utérus et le placenta.
Ben voilà, et réflexion.
Donne souvent des enfants qui...
Ça y est, c'est quoi du coulou va nous dire que de toute façon, non.
Il
n'arrêtera pas de fumer.
Ah si, j'ai arrêté de fumer, j'ai juste pas encore arrêté de vapoter. Et ouais. Je lève le pied sur l'alcool.
C'est très bien, il faut arrêter le tabac, il faut se préparer avant la grossesse à arrêter le tabac.
Ben, c'est bon, le tabac c'est bon, arrêté, la vapote c'est pas encore ça.
Elle vapote.
Oui, c'est ça. Une chose après l'autre, Michel.
Oui, il ne faut pas...
C'est pas bon.
Mais je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les femmes. Il faut leur en parler, les informer. Et puis, parce que le tabac donne plus de grossesse extra-utérine aussi, d'implantation anormale de l'œuf, puisque la trompe utérine, c'est un petit tuyau, hein, avec des cellules ciliées à l'intérieur, des cellules dont les cils ramènent l'œuf vers l'utérus, comme un tapis roulant. Et le tabac paralyse les cils. Comme le tabac paralyse les cils bronchiques, ce qui donne des bronchites chroniques chez le gros fumeur, mais ça paralyse aussi les cils des cellules tubaires, ce qui fait que l'œuf s'arrête en cours de route et ça peut s'implanter dans la trompe. Les grossesses extra-utérines sont multipliées par 5 chez les femmes qui fument. Ensuite, il y a plus de fausses couches.
Aussi étonnant. Il faudrait rappeler, l'homme a aussi des responsabilités
le tabac,
les problèmes de fécondité.
Le tabac altère la qualité du sperme.
Y compris par rapport à l'addiction, au tabac, l'alcool, drogue.
Ça joue sur le nombre de spermatozoïdes, sur la vitalité des spermatozoïdes et sur les formes anormales de spermatozoïdes. Donc le tabac est un facteur important. Et on sous-estime et on n'informe pas assez les hommes de leur responsabilité dans la fécondité d'un couple. Parce qu'on ne traite pas la fécondité du couple en traitant uniquement la femme, on traite un couple.
Eh oui.
Et il est hors de question de faire des examens, de mettre en morceaux, je dirais, de faire des examens très compliqués, lourds, à supporter.
Ah, il ne faut pas faire la responsabilité uniquement sur la femme.
Voilà.
Le problème de fécondité ne repose pas uniquement sur la femme.
On sait actuellement les problèmes d'infertilité reposent pour moitié chez la femme et pour moitié chez l'homme. 50-50. Mais culturellement, on ne regarde que la femme. Et il faut que les médecins le font actuellement, de vérifier la fécondité de l'homme en faisant des examens chez l'homme. Et l'examen le plus simple à faire, c'est le spermogramme, c'est l'étude du sperme prélevé par masturbation. Après 3 ou 4 jours d'abstinence, on compte le nombre de spermatozoïdes par millimètre cube. Il est compris entre 20 000 et 200 000. Il était en moyenne à 80...
Il y a une bonne réserve, pourtant.
Alors, oui, mais il suffit d'un seul spermatozoïde pour tomber enceinte. Mais le nombre de spermatozoïdes facilite quand même. Hein. Oui. Et il y avait à peu près 70 000 spermatozoïdes en moyenne il y a 20 ans. Il n'en reste plus qu'entre 25 et 35 000 actuellement. Alors, c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est le stress, c'est le mode de vie, c'est les perturbateurs endocriniens, les substances toxiques qui nous environnent, qui joue un rôle également sur le sujet. Pour obtenir une grossesse...
Qu'en est-il de, justement des régimes qui sont préconisés, y compris pour les hommes, pour les régimes qui sont préconisés, enfin l'alimentation...
Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de régime particulier. Je recommanderais simplement, on demande aux femmes de prendre de l'acide folique, hein, de la vitamine B5, pour pouvoir éviter certaines malformations comme des anomalies de fermeture du système nerveux central, les anencéphalies et les spina bifida. Mais prendre ça dans les 3 mois qui précèdent. Arrêter le tabac, arrêter l'alcool, parce que donc l'organisme peut garder des traces de ces toxiques-là en début de grossesse. Mais c'est valable chez l'homme et chez la femme. Sinon, il faut une alimentation équilibrée, pas de régime particulier. Je dirais simplement qu'il faut plutôt manger bio pour éviter les perturbateurs endocriniens et les pesticides dans l'alimentation qui peuvent jouer un rôle défavorable sur la grossesse et sur...
Comment on peut éviter ces perturbations endocriniennes qui sont partout, finalement?
C'est manger bio. Déjà, on les diminue. Manger bio, c'est une possibilité qui améliore grandement les choses. Mais il faut le faire dans les 2-3 mois qui précèdent la grossesse.
D'ailleurs, notre ami Étienne Géin est pour répandre
on va
le
donner...
problème de... De l'ordonnance verte.
Oui. On y reviendra.
On y reviendra.
Parce que Lou va nous passer une petite pause musicale.
Oui, il s'agit de Feeling Good et de Nina Simone. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
Merci Lou. Shine high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. C'était Nina Simone.
Merci Lou pour Nina Simone, j'adore.
C'était ton choix, Jean.
Ouais. Donc, la fertilité Pour être simple, fertilité, bon, faut pas être trop âgé, ce serait mieux de pas avoir de tabac, d'alcool. Faire attention aux médicaments, il y a des médicaments qui peuvent être tératogènes. Un des principaux médicaments tératogènes, c'est la vitamine A.
Mais le fait de la pilule, est-ce que ça peut aussi avoir des effets?
Non, aucun effet ultérieur. La pilule, les enfants qui naissent après l'arrêt de la contraception ne sont pas plus vilains que les autres. Il n'y a pas de différence, c'est prouvé.
Il n'y a pas de différence.
Non, la contraception.
On dit quelquefois que ça.
Non, c'est une culpabilisation des femmes, mais qui n'a pas du tout de. C'est faux. C'est non. Totalement faux.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a arrêté la
fini.
Pilule, ça y est.
D'ailleurs, la preuve, c'est que si tu oublies ta pilule un jour ou deux, tu peux tomber enceinte. Donc ça n'a pas d'effet.
Oui,
ça n'a pas d'effet à long terme. Hein. Ça n'a pas sur la fertilité, sur la qualité des enfants. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que on sait que le stock des ovules de la femme est déterminé dès la naissance. Quand elle naît, elle a un nombre de follicules et d'ovules. On pourrait se dire que si elle prend la pilule pendant 10 ans, elle économise ses ovules et puis elle poursuit elle pourrait allonger sa fertilité de 10 ans. Ben, c'est faux. Les femmes qui prennent la pilule ont une ménopause au même âge que les autres. Hein, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de différence. Voilà.
Pour revenir un petit peu à comment expliquer la fertilité, pour un médecin, pour faire un bilan de fertilité, je disais qu'on prend en charge le couple. Pour qu'il y ait une grossesse, il faut trois choses. Hein, il faut qu'il y ait des ovules, il faut que la femme ovule, il faut qu'il y ait des spermatozoïdes, et il faut qu'ils puissent se rencontrer. C'est tout simple. Alors qu'ils puissent se rencontrer, bah, il faut déjà que. Ce serait mieux si la femme n'était pas infirmière de nuit et le mari chauffeur routier, parce que ça fait que les rapports sexuels ne sont pas très fréquents quand même. Hein. Et idéalement, il faudrait que les rapports sexuels viennent tous les 2 à 3 jours, voilà, hein, dans le cycle. Savoir s'il y a des ovulations, c'est simple. Il y a une chose tout à fait remarquable, c'est qu'il y a des tests d'ovulation, des tests sanguins ou sur des prises de sang au doigt, etc. Faire une courbe de température. C'est vieux comme le monde. On sait que la femme a une température en dessous de 37 avant l'ovulation, un point le plus bas le jour de l'ovulation, et le lendemain de l'ovulation, elle est à 37,2, 37,1. Donc elle passe de
36. C'est beaucoup de différence.
Elle passe. Si, si, mais
il faut
elle passe.
Hein.
Un plateau de température relativement bas à 36,7, 36,6, 36,8, à 37, 37,1. Donc ça permet de dater l'ovulation. C'est un test tout simple d'ovulation. Et on n'est pas obligé de le faire tout le mois. Hein. Il suffit de le faire entre le 10e et le 16e jour du cycle. Une fois que la température est montée en plateau, ce n'est pas la peine de continuer. Il ne faut pas être esclave du thermomètre. Hein. Savoir s'il y a des spermatozoïdes, bah, il faut faire un spermogramme. Ce n'est pas compliqué pour un homme de faire un spermogramme dans un laboratoire pour compter le nombre de spermatozoïdes, pour voir si...
Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Si, tout à fait remboursé. Oui.
Ah, si?
C'est les deux examens de base. Hein, deux examens de base. Ensuite, il ne faut pas non plus stresser les couples. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a infertilité, difficulté à avoir une grossesse au bout de 2 ans de rapport sexuel sans grossesse. Peut-être un peu moins si les gens ont 39-40 ans. Hein. Et là, l'examen à pratiquer, c'est une hystérosalpingographie. C'est pour voir si l'utérus et les trompes sont perméables. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que spermatozoïdes et ovules devaient pouvoir se rencontrer. Il faut que les voies génitales soient perméables. Et bon, après, il y a des prises en charge spécifiques si les trompes sont bouchées.
On ne pensait pas que c'était si compliqué que ça, hein, de se rencontrer.
Mais c'est tout simple. C'est tout simple. Les spermatozoïdes doivent monter par le col utérin, vivent dans la glaire cervicale où ils restent en réserve et ils peuvent rester vivants entre jusque 5 jours dans la glaire cervicale. L'ovule reste vivant 24 heures.
Ah oui,
c'est... Pas plus. Hein. Fécondable 24 heures. Donc, il faut que les spermatozoïdes, idéalement, attendent un petit peu dans la glaire cervicale et remontent sur le site de l'ovulation. Le site de la fécondation, c'est le pavillon tubaire. C'est l'ampoule tubaire. C'est la partie externe de la trompe. La trompe a un rôle très important. C'est-à-dire que à l'ovulation, c'est un petit kyste sur l'ovaire qui se rompt et qui libère l'ovule. Ce petit kyste, il fait 2 cm de diamètre, il contient un liquide folliculaire, il contient l'ovocyte qui tombe dans le fond du ventre. Donc, ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas, c'est le fond du péritoine qui est situé entre le vagin et le rectum. Et à ce moment-là, la trompe utérine joue le rôle d'un aspirateur. Elle va aspirer ce liquide folliculaire et récupérer l'ovule. Donc il faut que la trompe soit mobile, soit pas adhérente, soit pas collée, soit pas bouchée, n'ait pas subi des salpingites, des infections. Il faut qu'elle ait pas eu un tabac qui la paralyse aussi. Et la fécondation va se faire dans la partie externe de la trompe, ce qu'on appelle l'ampoule tubaire, qui va se fermer des deux côtés comme un spasme et laisser passer les spermatozoïdes qui remontent de la glaire cervicale dans l'utérus jusqu'à la partie externe de la trompe. Et c'est là qu'aura lieu la fécondation. Et l'œuf fécondé, au bout de 48 heures, va revenir vers la trompe par ces petits cils dont j'ai parlé tout à l'heure et par le rôle d'aspiration de cette trompe qui ramène le liquide folliculaire de la partie externe de la trompe, là où lieu la fécondation, qu'il ramène jusque dans l'utérus. Et là, l'œuf va pouvoir s'implanter, et l'œuf s'implante en pénétrant sous la muqueuse utérine. Et il va se développer à ce niveau-là. Voilà, c'est quelque chose, c'est une physiologie, c'est quelque chose de naturel qu'il faut respecter. Et on le vérifie, il y a une ovulation, il y a
Le rôle féminin est...
Le rôle féminin est capital.
Capital dans ce processus, alors.
Oui, je dirais même... L'ovule, c'est une grosse cellule qui fait 0,1 mm, quasiment ce qui serait visible à l'œil nu. Le spermatozoïde est microscopique à côté. Et le spermatozoïde pénètre au travers de la membrane cellulaire de l'ovule et il ne donne que ses chromosomes. Le reste, au vestiaire, ça reste dehors. Donc l'homme n'apporte que ses gènes, que ses... C'est l'homme a des spermatozoïdes garçons et des spermatozoïdes filles. Hein,
et il a 20, les deux quand même.
Oui, et il a 23 chromosomes dans son spermatozoïde et l'ovule a 23 chromosomes. Et on reconstitue un individu de 46 chromosomes. Mais l'ovule fournit toute la machinerie cellulaire, les membranes, le noyau, les mitochondries, les enzymes, tout ce qui est contenu dans le cytoplasme de l'ovocyte sera ultérieurement contenu dans les cytoplasmes des cellules de l'enfant. L'homme ne donne que ses chromosomes, c'est tout. Donc nous avons un rôle relativement limité.
Et parmi ceux-là, il y a un chromosome Y, alors.
Alors, c'est l'homme
Parce que c'est l'homme qui décide...
Oui, c'est le chromosome qui décide du sexe. Alors là, une petite anecdote. Les chromosomes, c'est facile à retenir, les chromosomes Y sont les plus rapides. Les garçons courent plus vite que les filles. Oui. Et ils arrivent plus rapidement sur le site de l'ovulation. Donc, un rapport sexuel unique le jour de l'ovulation donnera plus de garçons.
Ça rappelle certains films.
Oui. Donc, je répète, un rapport sexuel unique le jour d'ovulation donnera plus de garçons. Mais les spermatozoïdes filles ont plus d'endurance que les spermatozoïdes garçons. C'est-à-dire qu'un rapport unique 3 ou 4 jours avant l'ovulation, les spermatozoïdes Y, c'est-à-dire garçons, arrivent sur le site de l'ovulation, mais il n'y a personne. Il n'y a pas d'ovule.
Ah ben oui.
Donc, ils décèdent, ils meurent. Et les X vont arriver tranquillement, jusque 3, 4 jours, 5 jours après. Et donc, des rapports sexuels interrompus 3 jours avant l'ovulation donnent plus de filles.
Ils naissent plus de filles que de garçons ou bien c'est équivalent?
Non, le sexe ratio, ils naissent plus de garçons que de filles. Mais les garçons sont plus fragiles aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Après quelques années, il restera plus de filles que de garçons.
Ah oui, c'est ça.
Donc nous sommes peut-être plus rapides, plus forts, mais moins endurants et plus fragiles. Depuis nos spermatozoïdes jusqu'à après notre naissance. Et ce qui fait d'ailleurs l'espérance de vie, il y a 5 ans de différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Les femmes nous survivent d'environ 5 ans.
Tout au long de la vie, ça va avoir de l'influence. C'est qu'on fait une pause musicale.
Une pause musicale par Lou.
Et cette fois, c'est Crazy Little Things Called Love de Queen. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
Nous revenons à l'émission. La parole est à vous, ma cousine santé. Alors, je vais poser une question. Tiens, c'est là, du moins, où, hein, c'est-à-dire que pendant des millénaires, on pourrait dire des millénaires, on a fait porter la responsabilité de la fécondité
oui.
tout sur la femme. Hein, et en particulier le fait de pouvoir avoir des garçons ou pas.
Ah oui, oui, bien sûr. C'est culturel. Et on a vu des rois répudier leurs épouses parce qu'elles ne pouvaient pas leur faire de garçons pour avoir un successeur.
Eh oui, Henri II.
Alors qu'en fait, le responsable du sexe de l'enfant, je répète, c'est le spermatozoïde qui s'appelle X, qui donne des filles. Puisque
pour les garçons, c'est
oui, et Y pour les garçons. Puisque la femme qui a un caryotype XX, qui a deux X, ne donne que des ovules X. Voilà. Mais
est-ce qu'on pourrait imaginer, pour les humains, qu'il n'y ait plus que des filles, par exemple ?
Ce n'est pas trop imaginable, naturellement. Je ne pense pas que ce soit souhaitable.
Que ce soit souhaitable, ça paraît quand même...
D'ailleurs, le choix du sexe me paraît, à part cette méthode un petit peu naturelle sur la fréquence des rapports sexuels, mais ça ne me paraît pas souhaitable. Je pense qu'il faut respecter un certain ratio, sous peine de devenir... que la population soit entièrement homosexuelle et soit incapable ultérieurement de se reproduire, sauf avoir accès à des banques de sperme. C'est une science-fiction que je ne souhaite pas. Hein. D'ailleurs, on a parlé dans les problèmes d'infertilité, du tabac, de l'âge. Il faudrait parler aussi des problèmes liés au mode de vie. Surcharge pondérale, obésité, absence d'activité physique.
On a pu aussi parler du travail de nuit, travail
posté. Oui, oui, le rythme nictaméral, c'est un facteur de cancer du sein, mais ça peut être aussi un facteur d'absence de grossesse, parce que ça perturbe du point de vue hormonal. Hein, l'ovulation, d'ailleurs, ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est un équilibre hormonal complet dans lequel le rythme nictaméral, jour-nuit, entre en ligne de compte. On a certaines femmes qui habitent dans des pays extrêmement nordiques, en Laponie, des femmes esquimaux, qui pendant 6 mois de l'année n'ovulent pas. Parce qu'il n'y a plus de soleil. il fait nuit. Donc, elles n'ont plus d'ovulation. Donc, ce qui prouve quand même l'environnement, le rôle de l'environnement. Hein. D'ailleurs, un petit aparté, j'ai connu des femmes qui refusaient, entre guillemets, d'accoucher et qui dépassaient leur terme parce que leur mari était militaire et ne devait pas rentrer avant 15 jours. Et le jour où le mari rentrait, l'accouchement se déclenchait et était normal. Donc, nous ne sommes pas des...
Et on peut parler aussi de ces réalités dans les îles, certaines îles.
Et puis,
il n'y avait pas de renouvellement de population.
Et puis, de stérilité aussi, parce que quand il y a un contrat de résultat, les femmes se lancent dans des bilans médicaux, des cycles de procréation médicalement assistée, de fécondation in vitro, d'examens compliqués, de stimulation de l'ovulation avec des piqûres tous les jours, de réimplantation de fécondation avec des dons de sperme. C'est extrêmement lourd et stressant. Et puis ça marche pas. Et un jour, on a tous vu ça, les médecins gynécologues obstétriciens, le jour où les femmes, c'est tellement lourd, décident d'arrêter, elles tombent enceintes toutes seules. Voilà.
Oui.
Hein, et je l'ai vu X fois. Ce n'est pas accidentel. Et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. La fécondité ne se maîtrise pas complètement. Elle a besoin de vivre naturellement. Mais c'est vrai que dans des difficultés pour obtenir des grossesses, il est important d'avoir accès à ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, qui consiste à avoir des dons de spermatozoïdes. Il y en a 870 enfants qui naissent sur une année grâce aux dons de sperme. Et des dons d'ovocytes, il y a 520 enfants qui naissent par an grâce à des dons d'ovocytes. Cette procréation médicalement assistée ne se fait jusque 42 ans. Au-delà, les risques, les chances de grossesse deviennent très faibles, inférieures à 3%. Et alors, si notre président de la République veut réarmer la France démographiquement, il faut qu'il aide les centres de procréation médicalement assistée, puisqu'il y a 2077 femmes en attente de dons d'ovocytes en France et 5650 femmes en attente de dons de sperme. Donc, les attentes peuvent durer quelquefois 6 mois, 1 an, 2 ans. Et comme le temps est un facteur préjudiciable pour la fertilité, je crois que c'est bien beau de parler de réarmement démographique. Je fais un appel solennel, qu'il faut donner les moyens pour faire fonctionner ces centres de procréation médicalement assistée, qui est le dernier recours, hein, quand rien n'a marché et qu'il y a un désir profond de grossesse. C'est 3% des grossesses en France. 3% des grossesses sont obtenues par...
D'où l'utilité de se dire que il vaut mieux quand même, il vaut mieux avoir des bébés assez jeunes quand même.
Oui, alors c'est pas dans l'air du temps. L'Agence régionale de santé a retiré l'agrément au centre de procréation médicalement assistée d'Épinal. On faisait des fécondations in vitro et ça vient de leur être retiré. Donc c'est pas du tout dans l'air du temps. Pour des raisons d'économie, on fait exactement l'inverse. Donc, je trouve qu'on veut, en matière de fertilité, on veut un peu un tout et son contraire. On veut des enfants, mais on ne veut pas donner les moyens.
Et voilà.
Et je crois que c'est un problème.
Et puis les moyens pour les élever aussi, parce que...
Alors, voilà.
Quand même,
pour faire un
bébé,
pour faire un enfant...
Ça impose des contraintes.
Pour faire un enfant,
financières,
oui.
Finalement.
Oui. Financières. Et puis, les femmes ont droit aussi à en faire des études, à envisager une carrière professionnelle qui leur est propre, avoir leur indépendance et avoir les grossesses peut-être un petit peu plus tard. On le regrette médicalement parce qu'il y a une horloge biologique, mais il faut les aider après avoir leurs enfants ou même avoir leurs enfants avant, sans pénalité pour leur profession, pour qu'elles ne soient pas bloquées dans leurs entreprises, dans leur carrière, etc. Et je crois que c'est...
Qu'elles ne soient pas culpabilisées non plus.
Pas culpabilisées
non plus. Parce que ça existe.
Plus, hein. Et puis après...
On a vu...
Et puis après,
qu'elles soient... Les grandes centrales de distribution dire « Ah, mais il faut choisir, hein, chez où vous travaillez chez nous, vous faites des bébés. »
C'est un discours exécrable. Voilà. Je pense que... À l'heure où les entreprises essayent d'avoir une responsabilité sociale, environnementale, essayent de se verdir, elles feraient mieux, déjà bien aussi de préserver l'avenir des femmes qui s'arrêtent pour faire des enfants. Je crois que c'est important.
C'est important quand même. C'est important, le rythme de vie, aussi, etc. L'absence de stress.
Alors,
voilà, ben nous, ah, on va bientôt
je crois
se
que...
quitter. Se quitter, on aura encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça c'est d'actualité. C'est d'actualité, puisque de toute façon, on veut un réarmement.
Ben je pense qu'il faut se donner les moyens pour aider les femmes,
y compris aider les femmes aussi
à s'occuper des enfants après la naissance, les garder, les crèches devraient être prises en charge. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important.
Ah oui, c'est difficile.
J'ai les crèches à Paris, par exemple.
On était plutôt 9 ans en France maintenant.
Il y a entre un an et 2 ans d'attente. Donc, si vous voulez un enfant, il faut déjà réserver la crèche avant la conception.
Ah bah oui.
Et il y a des petites crèches privées, mais il faut compter 1500 euros par mois. C'est inadmissible, insupportable. C'est pour un pays qui se veut avoir une politique de naissance et un réarmement démographique.
Voilà.
C'est ce que je voulais dire.
Là,
merci
sera,
à, le, à, aux auditeurs.
Le,
merci
notre
pour
conclusion. Hein, je crois que là... C'est vrai, il faut donner les moyens. Et c'est vital, vital pour une société d'avoir des bébés, d'avoir des êtres en devenir.
C'est l'avenir, c'est l'avenir.
Ouais, c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir, c'est pas... surtout dans les sociétés comme la nôtre qui sont de plus en plus vieillissantes, il faut un renouvellement. C'est logique et malheureusement... Ce n'est pas toujours perçu comme ça par nos gouvernants, n'est-ce pas? Voilà.
Merci Michel, merci à Lou.
Merci.
Merci à Lou, surtout.
Avec plaisir.
Et merci à Lou aussi. Allez, bonne fin de soirée.